C'est un podcast Vivre FM.
Vivre, c'est épatant.
Depuis les Champs-Élysées,
sur Vivre FM.
La vie sans sexisme, c'est possible. Si, c'est le collectif Ensemble contre le sexisme qui l'affirme et qui propose demain, à l'occasion de la 5e journée nationale contre le sexisme, une web conférence accessible à tous et notamment aux personnes déficientes auditives. Alors on en parle dans deux minutes avec notre invitée Isabelle Dumont, chargée de mission communication et développement associatif de FDFA, Femmes pour le dire, Femmes pour agir, l'une des associations qui fait partie du collectif Ensemble contre le sexisme. On aura également avec nous la présidente de la CLE, Jocelyne Adrian Mebtoul, qui nous parlera également de sexisme, comment lutter contre le sexisme et de cette actualité de demain, cette webconférence accessible à tous, c'est gratuit.
Vous écoutez Vivre c'est épatant avec Carole Clémence.
Et à 13h01, on retrouve le flash d'Emmanuel Carré.
Bonjour, vous avez dû le présenter ce midi si vous êtes allé manger au restaurant par exemple. Le pass vaccinal remplace depuis aujourd'hui le pass sanitaire pour les 16 ans et plus. En clair, un test négatif ne suffit plus pour entrer dans certains lieux recevant du public comme les restaurants, mais aussi les bars, les salles de spectacle ou de sport. Vous devez désormais avoir un schéma vaccinal à jour. En revanche, le pass sanitaire reste actif pour les enfants de 12 à 15 ans, mais aussi pour accéder aux établissements scolaires et aux services de santé comme les EHPAD. Comme un air de campagne présidentielle pour Emmanuel Macron, toujours pas officiellement candidat, le chef de l'État est dans la Creuse. Aujourd'hui, il va notamment rencontrer des étudiants et des jeunes du milieu associatif. Il sera également question de santé dans un département les plus touchés par le phénomène des déserts médicaux. Emmanuel Macron qui se rendra ensuite demain en Haute-Vienne. Au total, deux jours dans le Limousin et un seul objectif, défendre le bilan de son quinquennat auprès du monde rural. Guillaume Pelletier dans le collimateur de la justice, le député du Loir-et-Cher et porte-parole d'Éric Zemmour est visé par une enquête préliminaire pour des soupçons d'utilisation d'argent public. Il aurait fait appel à des collaborateurs payés sur des fonds de l'Assemblée nationale pour faire fonctionner ses micro-partis. À l'étranger, toujours des tensions très fortes en Ukraine. Les pays de l'OTAN ont placé des forces en attente avec l'appui de navires et d'avions de combat pour renforcer leur défense en Europe de l'Est. Une réponse face aux activités militaires de la Russie à la frontière ukrainienne. Les États-Unis redoutent une invasion. Le sujet doit être évoqué aujourd'hui à Bruxelles lors d'une réunion en visioconférence entre les ministres des Affaires étrangères et le chef de la diplomatie américaine. Et puis le monde de la mode en deuil, Thierry Mugler est décédé, une mort naturelle, précise son entourage. Le créateur français avait marqué les années 80 avec ses tenues spectaculaires et avant-gardistes portées par les plus grandes stars, de Beyoncé à Madonna en passant par Lady Gaga. Thierry Mugler avait 73 ans. Voilà pour ce tour du monde de l'actualité en deux minutes. Très bonne journée à tous.
Vous écoutez Vivre c'est épatant
avec Carole Clémence.
Cette 5e journée nationale contre le sexisme aura lieu demain, donc demain après-midi avec une webconférence de 14h30 à 17h. On va en parler tout au long de cette émission. On en parle avec Isabelle Dumont. Bonjour Isabelle. Alors Isabelle, vous êtes extrêmement loin du micro, il va falloir
vous rapprocher.
Voilà. Et alors vous faites partie de Femmes pour le dire, Femmes pour agir, FDFA. Vous allez donc nous expliquer, vous êtes avec nous en studio. On a également au téléphone Jocelyne Adrian Mebtoul, présidente de la CLE, coordination française du lobby européen des femmes. Vous avez beaucoup d'autres titres, Jocelyne Adrian Mebtoul, on les dira peut-être tout à l'heure. Bonjour.
Bonjour à vous, merci de cette invitation.
Voilà, Jocelyne et Isabelle, donc cette journée qui a lieu demain, nationale contre le sexisme, ça a un rapport, on confond souvent avec la journée du 8 mars, la journée pour les femmes. Qui veut répondre?
Jocelyne?
Bon, eh bien je démarre. Ça a un rapport, ça a toujours un rapport puisqu'il s'agit effectivement de parler des droits des femmes. Mais le sexisme est quelque chose de spécifique et c'est pourquoi le collectif Ensemble contre le sexisme souhaite réclamer une journée nationale contre le sexisme parce que le sexisme est vraiment à la racine de toutes les inégalités entre les femmes et les hommes et de toutes les discriminations que subissent les femmes.
Oui.
Ça, c'est vraiment le point nodal. Donc, la journée internationale des droits des femmes, c'est très bien. Mais une journée sur 365, on peut faire mieux. Et le sexisme est vraiment la base, ce sur quoi il faut qu'on réfléchisse tous ensemble, toute la société.
Oui, oui. Et alors demain, effectivement, on va y réfléchir. Isabelle, qu'est-ce qui va avoir lieu demain ? Qu'est-ce qui est au programme ?
Alors, c'est un programme qui est bien, bien complet. Donc, c'est la 5e édition de cette journée nationale contre le sexisme. C'est assez proche, c'est bon ?
Allez-y.
C'est la 5e journée, 5e édition. Pour rendre visible cette question du sexisme, qui est une question fondamentale, mais qui, à la différence de bon nombre de discriminations, n'est pas identifiée comme telle. Donc au programme, il y aura des expertes et experts, trois tables rondes qui vont aborder la question du sexisme en abordant d'abord la question de la femme invisible. Qu'est-ce que c'est que d'être invisibilisé dans la vie quotidienne et en particulier au travail ? Qu'est-ce que c'est qu'être une femme invisibilisée dans les médias, dans les arts, dans la culture ? Et puis, on aura
et ensuite... C'est quoi justement être invisibilisé ?
Eh bien, regardez le nombre de femmes qui interviennent comme expertes sur les plateaux.
Oui, il y en a très peu.
Il y en a très peu, voilà. Donc, elles existent, hein. Elles sont là, elles ont les compétences, elles ont l'expertise, mais on ne fait pas appel à elles. Donc,
oui.
On va travailler sur cette question-là, la place des femmes en entreprise,
oui.
Le nombre de femmes. Combien y a-t-il de femmes à la tête des entreprises du CAC 40 ?
Mais il ne peut y en avoir beaucoup.
Il n'y en a pas.
Il n'y en a pas ?
À ma connaissance, il y en avait une, mais elle n'y est plus.
Jocelyne, vous vouliez intervenir ?
Je peux ajouter sur l'invisibilisation des femmes, c'est que c'est dans tous les domaines, absolument tous les domaines, dans l'histoire, dans les manuels scolaires. Effectivement, en politique, il a fallu quand même qu'on mette des quotas pour arriver à un semblant de parité qui n'est toujours pas atteint. On est aujourd'hui à 44% de parité dans les conseils d'administration, mais dans les comités exécutifs, on est loin du compte. En politique, les partis politiques continuent à préférer payer parfois des pénalités plutôt que de faire place égale aux femmes par rapport aux hommes qui sont installés et qui ne veulent pas forcément lâcher leur pouvoir. Donc, c'est vraiment dans tous les domaines. Je me souviens d'exemple à la pandémie, quand ils ont créé le Haut Conseil de la Santé, là, d'Elfrécy, il y a 11 membres et 2 femmes seulement qui ont été membres de ce Haut Conseil. Dire comme si on manquait d'épidémiologues, de virologues, de femmes médecins capables de donner leur expertise. C'est-à-dire que et vous avez pu le remarquer aussi bien dans les radios que dans les télévisions, dire il n'y avait plus d'expertes, il n'y avait pas d'expertes, il y avait 5 hommes pour parler des droits des femmes parfois.
Effectivement, ça arrive. Oui.
Voilà. Bon, mais je pourrais en parler pendant des heures, mais c'est pas le propos là.
Oui, alors cette table ronde sur l'invisibilisation des femmes. Il y en a une deuxième dont vous parliez, Isabelle.
Alors pourquoi les femmes sont invisibles ? On s'est posé la question.
Bien devant le micro.
On s'est posé la question de la raison qui rendait ces femmes invisibles. Et une des pistes que nous allons explorer, c'est celle de l'orientation, avec ce qu'on a appelé les paris truqués de l'orientation, c'est-à-dire que jusqu'au lycée, les filles et les garçons ont des résultats à peu près similaires, les filles étant un petit peu meilleures sur les questions techniques, sur les mathématiques et les sciences appliquées. Et puis, brusquement, le bac passé, l'orientation, il y a un grand gap qui se met en place et l'orientation bifurque. On ne sait pas trop pourquoi, si ce n'est que systématiquement, on va proposer aux femmes d'être non pas ingénieures ou mathématiciennes ou physiciennes. On va les orienter vers un métier un petit peu moins de premier plan, qui va nécessiter peut-être moins d'études, des études plus courtes, où on va les orienter plus facilement comme étant assistantes d'ingénieurs qu'ingénieurs elles-mêmes.
Oui.
On va se poser la question justement.
Pour une anecdote à ce sujet, on m'avait dit que il fallait absolument pas. Je connais quelqu'un qui voulait être ingénieur. On lui avait dit non, fais pas ce métier, c'est très sexiste. Tu vas pas y arriver. Donc dès la base, on dissuade les jeunes filles d'être ingénieurs.
Exactement, exactement. Et puis, il y a toujours un a priori qui fait qu'on pense que les femmes sont moins compétentes et que le fait d'être femme va influer sur leur carrière. Donc, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, et c'est des prédictions qui se nourrissent d'elles-mêmes, hélas. Et on va essayer de penser quelles solutions apporter concrètement pour changer la donne et pour que les femmes puissent trouver leur place dans ces métiers qui sont des métiers qui ne sont pas systématiquement réservés, puisqu'on pense que les femmes vont aller systématiquement vers des métiers d'aide à la personne, les métiers du care, les métiers du soin, les métiers de l'assistanat.
Qui sont moins bien payés, moins bien valorisés.
Et qui ont plus de temps partiel et qui ont plus de ruptures dans la vie professionnelle et qui vont donc générer une retraite beaucoup plus moindre.
Oui.
Beaucoup plus modeste que celle des hommes qui ne vont pas avoir eu ces ruptures de parcours dans la vie professionnelle.
Jocelyne ?
C'est vraiment ça, c'est la double discrimination. C'est-à-dire que dans les métiers scientifiques, alors des femmes scientifiques, des scientifiques femmes, il y en a énormément, comme il y a des artistes femmes énormément. C'est simplement dire la visibilisation qui est minorée toujours. Mais c'est la double discrimination quand dans certains métiers, il y a beaucoup de femmes, le métier est dévalorisé. C'est-à-dire, effectivement, dans le soin et dans le care, on a vu qu'effectivement, c'est moins bien payé, c'est ce que vous disiez. C'est-à-dire que la double discrimination, c'est que soit il y a un plafond de verre et elles ne peuvent pas accéder parce que le sexisme nourrit des inhibitions individuelles, mais aussi nourrit l'organisation de la société. Et donc, elle n'accède pas à ces métiers qui sont de pouvoir ou de pionniers ou pionnières. Et quand elles y sont, quand elles sont en nombre, alors c'est le métier qui est dévalorisé. Et ça, c'est toujours lié au sexisme qui est vraiment systémique. C'est très important de comprendre que le sexisme, c'est pas des faits divers. C'est un système qui s'appuie sur une domination patriarcale de très très longue date et qui est l'obstacle majeur à l'égalité entre les femmes et les hommes, vraiment.
Mais ça prend quelle forme ce sexisme systémique? C'est quoi? C'est souvent pas conscient quand même. Il n'y a pas de frein, de barrière.
Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses là-dessus. C'est que non seulement, alors d'une part, il y a l'inconscient qui fait que on est tricoté comme ça dès l'enfance, hein. Les garçons et les filles, on est tricotés chacun en bleu ou en rose. Enfin, j'exagère un peu, mais à peine. Et donc, on tricote les filles pour leur dire que ce qui est important, c'est qu'elles soient à l'écoute des autres, qu'elles soient en retrait, qu'elles soient calmes, qu'elles soient douces, qu'elles soit dans l'empathie. Et les garçons, on leur intime l'ordre aussi, hein, d'être des héros, d'être des meneurs, de ne pas pleurer, etc. C'est-à-dire qu'il y a autant d'ordres inconscients qui sont donnés aux garçons qu'aux filles pour qu'on soit chacun dans notre case. Et il se trouve que c'est l'inverse qu'il faut faire, c'est que les enfants ont toutes les possibilités, et absolument toutes. Les garçons peuvent jouer à la poupée sans être rejetés comme futurs homosexuels, comme si effectivement c'était d'ailleurs un crime. Et les filles peuvent avoir envie de taper dans un ballon ou de grimper aux arbres, etc. C'est-à-dire que c'est toute une construction sociale dans les familles, mais aussi dans les organisations, à l'école. Ensuite, on reproduit dans le travail, on le reproduit dans les arts. Pourquoi, par exemple, pourquoi est-ce qu'il n'y a que 6% d'œuvres d'artistes femmes au Louvre? Je pose juste la question. Pourquoi? C'est-à-dire que il y a beaucoup plus d'œuvres que ça et beaucoup plus d'artistes que ça, hein, on est bien d'accord. C'est-à-dire que c'est quelque chose c'est systémique parce que consciemment ou inconsciemment, on reproduit ce qu'on nous a appris, aussi bien les hommes que les femmes. Et puis après, il y a le côté conscient qui est les hommes qui sont à des postes de pouvoir importants n'ont pas forcément envie de céder la place. Ni aux petits copains d'ailleurs, hein, mais encore moins aux petites aux copines. Voilà.
Mmh. Alors, on va. Jocelyne et Isabelle, oui, on pourrait vous rétorquer. Oui, mais les femmes, elles sont moins ambitieuses naturellement, elles sont faites comme ça. Elles vont moins se bagarrer pour avoir le pouvoir. Voilà, ça explique aussi qu'elles sont moins présentes en haut de la pyramide.
Non.
On leur a dit, t'as pas le droit de te battre.
Isabelle,
Oui, excuse-moi Jocelyne, on leur a dit, on leur a inculqué depuis la petite enfance qu'elles devaient obéir, qu'elles devaient suivre les règles. On ne les autorise pas à sortir du cadre. Or, les petits garçons, on les invite à sortir du cadre. Les filles, elles doivent rester dans le cadre, elles doivent être obéissantes, elles doivent être des petites filles sages. Comment voulez-vous apprendre la révolte si on vous a dit pendant toute votre enfance non, non? Non, il faut avoir un sacré caractère pour sortir du cadre et dire « mais moi, je veux faire ça et je vais le faire ».
Oui. Jocelyne ?
Oui. Ben, oui, c'est la même chose. Hein. Construction sociale, uniquement construction sociale. Et si vous voulez, c'est très important justement qu'on puisse en parler et c'est très important qu'on fasse ce type d'événement. Notre collectif, il s'est créé, il fait quand même une quarantaine d'associations sur les droits des femmes ou féministes et qui viennent d'horizons très très divers, hein, de l'associatif pur, du militantisme féministe, du professionnel, des réseaux professionnels, etc. C'est vraiment très très diversifié, ça c'est important. Et à force de travailler sur la problématique du sexisme, on a fait ce constat que c'est le sexisme qui est à la racine de toutes les inégalités, c'est-à-dire que ça nous est venu un matin comme ça en nous réveillant. Et donc, c'est pour ça qu'on a voulu créer demander cette journée nationale contre le sexisme. Ça fait 5 ans qu'on la demande, on l'a pas encore, mais on va pas lâcher le morceau de toute façon. Ça, c'est important que vous nous entendiez, que vous nous donniez un espace d'expression pour le dire, parce que autant on peut définir assez facilement maintenant ce qu'est le racisme, beaucoup de choses comme ça, mais le sexisme, non, parce que le sexisme, on a tendance à le minimiser. Oh bah le sexisme, bon c'est un peu sexiste ce qui dit ce gars où il est un peu lourd, mais non, c'est quelque chose qui rogne un peu les ailes des femmes dans le quotidien.
Il faut dire qu'il y a beaucoup de femmes quand même qui acceptent le sexisme et qui l'ont intériorisé et qui rient des blagues salaces, des blagues sexistes et qui se placent en bas, qui sont moins importantes, qui sont moins capables que les hommes.
C'est tout le problème, c'est que on a intériorisé cette infériorisation des femmes, on l'a intériorisée. Et donc, ça suffit. C'est-à-dire que il faut qu'on puisse faire prendre conscience. Il suffit parfois de faire prendre conscience que ça, c'est pas normal. Le fait de dire, bon, bah, je mets entre parenthèses ma carrière pour celle de mon conjoint, ou c'est moi qui vais prendre le temps partiel parce que pour s'occuper de la maison, etc. Non, c'est-à-dire qu'il faut juste qu'on remette les choses dans l'ordre, à savoir les hommes et les femmes sont égaux, naissent égaux, comme c'est dans notre très belle déclaration nationale.
Oui.
Et c'est ça qu'il faut remettre en perspective. À partir de là, on comprend comment le sexisme agit de manière absolument insidieuse. Et c'est la vertu d'une journée comme celle que nous faisons depuis 5 ans, le 25 janvier, c'est précisément de sensibiliser le plus large public possible au fait que non, ça peut exister une vie sans sexisme. Oui, c'est possible, c'est le titre de notre journée.
Oui, c'est possible. On va continuer à voir comment, avec vous, Jocelyne Adrien Mebtoul, présidente de la CLE, coordination française du lobby européen des femmes, et également membre du collectif Ensemble contre le sexisme, qui organise demain cette journée en compagnie d'Isabelle Dumont, de Femmes pour le dire, Femmes pour agir, qui agit également demain dans cette journée. On fait une petite pause et puis on revient.
Vivre FM.
la radio de toutes les différences.
Many years ago is when it all began. You found a home in the palm of my hands. The minute I held you to my chest, I knew I found the only one for me. Such a beautiful sound. Sing for me, my darling. Won't you sing? Such a beautiful sound. Sing for me, my darling. Won't you sing it for me? Let my fingertips keep playing your sweet melody. Sing for me, my darling. Don't need no symphony. Let my fingertips keep playing your sweet melody.
Fingertips, Tom Gregory sur Vivre FM.
Vous écoutez Vivre c'est épatant avec Carole Clémence.
On parle du sexisme, une vie sans sexisme, c'est possible. C'est le mot d'ordre de la journée demain du 25 janvier, la 5e journée nationale contre le sexisme organisée par le collectif Ensemble contre le sexisme, dont Femmes pour le dire, Femmes pour agir et également La Clé, l'association La Clé, sont partenaires. Jocelyne Adrian, Mebtoul et Isabelle Dumont nous parlent depuis tout à l'heure de cette journée de demain, donc du programme de ces tables rondes en web conférence accessible et gratuite. Alors, il y a encore une table ronde, c'est les antidotes de la violence. Isabelle, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots?
Oui, le sexisme étant une violence intrinsèque, on s'est posé la question, comme de la même façon qu'on s'est posé la question de l'orientation et de l'origine donc de ce sexisme et de sa propagation, on s'est posé la question de savoir pourquoi le sexisme est vécu par les femmes avec autant de difficultés sans qu'il soit repéré et que ce soit véritablement une violence. Et donc on se passe à interroger sur la question de la virilité, du rapport à l'égalité femmes-hommes et la question de la virilité, puisqu'on est dans une société tout de même, comme disait tout à l'heure Jocelyne, patriarcale. Et on va se poser aussi la question de l'éducation, mais de l'éducation des petits garçons aussi, puisque, comme je disais tout à l'heure, on a les filles qui sont orientées systématiquement vers des métiers du Caire. On leur dit « tu dois être sage, tu dois être une gentille petite fille, tu n'as pas à crier ». Le petit garçon peut crier, le petit garçon peut piquer une colère. Lui, l'expression de ses sentiments, ça va être par la colère. La petite fille, on va l'enjoindre à l'empathie. Et on va se poser la question de l'empathie à l'école et comment on peut peut-être aussi éduquer les garçons à l'empathie et leur dire « non, c'est pas tabou, tu as le droit de pleurer ». tu as le droit d'être triste, tu as le droit d'exprimer tes
sentiments. Alors, il y a une évolution quand même à l'école, en tout cas dans les écoles occidentales, il y a une évolution là-dessus.
Justement, on va vouloir aller un peu plus loin et se dire, est-ce que le modèle qui est développé dans des pays scandinaves peut être adapté chez nous et est-ce qu'on peut faire cette éducation à l'égalité de la même façon qu'en Espagne, il y a certaines écoles qui apprennent aux petits garçons et aux jeunes garçons les tâches ménagères et à étendre une lessive et à repasser.
Oui, oui, oui. Voilà. Et c'est utile plus tard.
C'est très utile. C'est ce qui était enseigné aux jeunes gens autrefois lors du service militaire.
Oui, et ça n'est plus.
Du tout,
oui. Donc ces tables rondes, elles seront accessibles demain par webconférence. On les trouve où exactement ?
Alors, vous avez un, parce que le collectif Ensemble contre le sexisme vient de lancer son site qui s'appelle Ensemble contre le sexisme tout attaché .org. Donc, c'est https://ensemblecontrelesexisme.org. Et vous avez toutes les informations pour vous inscrire. Si vous êtes sur Twitter ou sur Facebook, sur les comptes d'Ensemble contre le sexisme, vous allez trouver toutes les informations. Et puis, bien entendu, les membres du collectif ont aussi posté sur leur page respectives, toutes les informations que vous pouvez retrouver.
Et ça commence à 14h30, ça se termine à 17h.
Voilà, exactement.
Et alors, c'est cette journée nationale contre le sexisme, cette cinquième journée, pourquoi a-t-elle lieu, Jocelyne ?
Ah, alors, elle a lieu parce qu'on fait du plaidoyer. Hein. C'est-à-dire qu'on réclame toujours d'avoir une journée nationale qui soit reconnue comme journée nationale contre le sexisme le 25 janvier. Depuis 5 ans, et aussi longtemps qu'il le faudra, mais on fait aussi du plaidoyer, c'est-à-dire que on n'est pas, on fait pas que râler parce qu'il y a du sexisme et donc des discriminations et des inégalités. On est vraiment force de propositions concrètes et opérationnelles. On souhaite sensibiliser le plus large public, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, pour les raisons de simplement que on vivrait mieux sans le sexisme, hommes et femmes, on vivrait mieux sans cela. Mais c'est surtout aussi qu'on va faire, depuis 5 ans, on a fait des propositions concrètes, des recommandations concrètes. Et là, on va présenter 22 propositions qu'on présentera que demain. Donc, il faut nous suivre demain si on veut les avoir.
Oui.
Et on fera voter les participants pour sélectionner ce qui leur paraît les propositions les plus pertinentes. Et nous remettrons le soir même à la ministre Elisabeth Moreno, la ministre donc de l'égalité, propositions, celles qui ont été sélectionnées, puis nous les adresserons ensuite aux ministres, à tous les ministres concernés, et enfin aux candidats aux présidentielles. C'est-à-dire que l'objectif de cette journée, c'est non seulement de rappeler pourquoi ça coince, pourquoi le sexisme est juste a des méfaits terribles sur la société tout entière, mais on est là pour faire des propositions concrètes et faciles à mettre en œuvre.
Oui.
Donc c'est important, et comme on est à 3 mois des élections présidentielles, c'est quand même une étape importante dans notre pays. Eh bien, on va demander aussi aux candidats et candidates ce qu'ils en pensent et s'ils s'engagent sur un certain nombre de ces propositions.
Voilà. Vous avez bon espoir ?
Écoutez, oui. Je pense que nous travaillons, le collectif travaille assez, enfin, en tout cas, reçoit une écoute très attentive de la ministre de l'Égalité nous pensons qu'elle est elle-même déterminée aussi à faire avancer les choses. En général, les ministres de l'égalité que nous avons eus ont toujours été assez déterminés et volontaires pour faire avancer. C'est heureux d'ailleurs. Mais donc, oui, on a espoir. En tout cas, c'est notre rôle, quoi. C'est notre rôle d'association féministe ou de tête de réseau, comme la clé, d'essayer de porter ces revendications, ces propositions auprès des personnes qui vont décider de notre avenir demain.
Oui, oui. Jocelyne, il y a beaucoup de structures, d'associations, de mouvements qui se revendiquent féministes. Vous, le collectif Ensemble contre le sexisme, vous êtes situé où ?
Je pense que on est en faveur des droits des femmes. C'est très diversifié, donc je ne sais pas si toutes les associations revendiquent d'être féministes, mais je pense que la grande majorité, si. Nous, la clé, c'est un réseau d'une centaine d'associations, hein, donc féministes et de droits des femmes, et oui. La clé se situe très clairement comme féministe. Je pense que le collectif, je pense pouvoir dire qu'il est plutôt féministe, mais je ne voudrais pas parler à la place de certaines associations qui considéreraient que le féminisme, enfin, s'afficher comme féministe est peut-être trop entre guillemets clivant. Encore que ces dernières années, quand même, et notamment depuis MeToo et d'autres mouvements, je pense que ça n'est plus un gros mot féministe.
Oui, ça passe mieux.
D'autant plus que la France est quand même dotée d'une diplomatie féministe. Donc, depuis 2 ans, et que la présidence française de l'Union européenne, qui a démarré là en janvier et qui courra jusqu'en juin, se réclame d'une diplomatie féministe.
Oui.
Donc, voilà, je pense que c'est devenu, c'est plus un gros mot, c'est déjà beaucoup.
Très bien. Jocine Adrien Mebtoul, avant de terminer avec vous, j'avais une question. Vous nous parliez tout à l'heure des hommes qui vivraient mieux sans le sexisme. Est-ce que vous pouvez donner des exemples précis?
Eh bien, écoutez, il y en a plein. Il y en a plein, mais je pense que, par exemple, dans le travail, si les hommes ne sont plus obligés de jouer les gros bras parce que sinon ou de rire aux blagues salaces de leurs collègues alors que ça ne les fait pas rire,
oui.
Ils vivront mieux. Je crois que attention, le sexisme, il est évidemment, il discrimine les femmes, mais quelque part il est aussi quelque chose qui entrave la liberté des hommes, parce que qu'un homme dans le travail n'ose pas dire que telle attitude ou telle réaction de son supérieur l'a blessé, c'est pas normal. C'est-à-dire que les hommes sont aussi des êtres sensibles, quoi. C'est dans
sûr.
Les deux sens. Voilà. Et je pense qu'il vaudrait mieux. Dans un couple, finalement, si la charge mentale est mieux répartie entre les deux, dans un couple hétérosexuel, la charge mentale est mieux répartie entre l'homme et la femme, les choses se passent plus paisiblement, parce que c'est pas très grave de faire la vaisselle à tour de rôle, c'est pas très grave de passer le balai ou la serpillière à tour de rôle, ou de faire une machine, et puis c'est sympa de s'occuper des enfants quand on en a, ça, c'est lourd, mais c'est sympa aussi pour les deux. Et donc, c'est simplement que ça permettrait aussi aux hommes de lâcher un peu prise, parce que on leur intime l'ordre aussi d'être des super-héros. Ils n'ont pas forcément l'envie, et pas tout le temps.
Oui, il y a une pression également, une pression
voilà,
énorme sur eux.
Absolument, absolument. Oui. Donc, vraiment, subissent les femmes comme discrimination du fait qu'elles sont nées de sexe féminin, notre lutte, c'est vraiment pour l'ensemble, c'est pour les hommes comme pour les femmes. On vivrait mieux ensemble,
voilà.
Paisiblement.
Merci.
On en a sacrément besoin par ces temps-ci. Voilà.
C'est vrai. Merci à Jocine Adrien Mebtoul, présidente de La Clé, fondatrice présidente de Femmes du Monde et réciproquement FMR, et membre du collectif Ensemble contre le sexisme, qui organise donc demain cette web conférence de 14h30 à 17h. C'est gratuit. La vie sans sexisme, c'est possible. C'est l'enseignement de demain. Merci Jocine de votre participation.
Merci à vous.
Jocelyne, bonne journée, et puis vous restez avec nous, Isabelle Dumont. On va continuer à parler de votre engagement, notamment de l'engagement de votre association Femmes pour le dire, Femmes pour agir, qui est une association qui a quand même une spécificité.
Oui, La devise de FDFA, Femmes pour le dire, Femmes pour agir, c'est femmes handicapées, citoyennes avant tout. C'est l'originalité et c'est pour ça qu'on se retrouve aussi dans des collectifs comme Ensemble contre le sexisme. C'est parce que nous sommes à la fois une association de personnes handicapées, de femmes handicapées, et que la question du genre est très importante pour nous. On est vraiment à la jonction entre le féminisme et le handicap, ou le handicap et le féminisme. Je ne sais jamais dans quelle ordre il faut le dire.
Oui, oui. Alors, on part du principe, mais vous pouvez l'observer, que une femme en situation de handicap va être plus vulnérable aux agressions sexistes.
Ah, tout à fait. Il y a très peu de chiffres qui existent sur les violences faites aux femmes en situation de handicap. Il y a deux chiffres. Il y a celui de 2007 de l'Union européenne qui dit que c'est près de 80% d'entre elles qui sont victimes de violences physiques ou psychologiques. Et il y a le chiffre de 2012 qui est le chiffre du rapport de l'ONU de Rachida Manjou qui dit que dans le monde, c'est 70% des femmes handicapées qui sont victimes de violences. Alors attention, les violences, ce ne sont pas uniquement les coups. On ne fait pas l'amalgame entre femmes battues, qui était une dénomination très très employée jusqu'à présent, et violence, puisque les femmes en situation de handicap subissent des violences tout au long de leur vie. C'est quasiment un continuum.
Violences sexuelles, violences verbales.
Il y a les violences sexuelles, les violences sexistes, les violences verbales, les violences psychologiques, les violences, le harcèlement. Les violences médicamenteuses, les violences médicales, les violences civiles.
Les violences médicamenteuses ?
Les violences médicamenteuses.
C'est
un exemple, nous avons eu le témoignage d'une femme qui était en fauteuil roulant et qui était diabétique, insulino-dépendante.
Oui.
Et son conjoint, qui était un homme violent, l'a privée de son insuline. Mettant donc sa vie en danger, puisqu'elle a fait un coma. Elle a été sauvée in extremis. Mais voilà, ça, c'est un genre de violence médicamenteuse.
D'accord.
Ça va être aussi un surdosage de médicaments pour que la personne soit plus tranquille.
Voilà.
Ou une absence carrément de médication, parce que ça coûte cher, alors non, on ne va pas l'acheter.
Oui.
Il y a des violences aussi alimentaires. Quand la personne est dépendante et qu'elle est en fauteuil, par exemple, et qu'il y a un aidant et que cet aidant doit faire du fauteuil vers le canapé.
Le transfert.
Le transfert, exactement. Cherchez le mot, merci Carole. Et bien, si elle pèse moins lourd, c'est plus facile à faire. Donc on va restreindre.
Vous pensez qu'il y a un raisonnement comme ça de la part de certaines personnes ?
Il y en a, oui. Hélas, oui.
C'est incroyable.
C'est incroyable, oui. Mais vous savez que depuis 2015, on a ouvert Écoute Violence Femmes Handicapées, le 01 40 47 06 06, qui est la seule ligne d'écoute en France spécialement dédiée aux femmes handicapées victimes de violences. Et nous avons donc ces témoignages-là, nous entendons ces témoignages-là.
Oui, c'est pas qu'une fois, c'est régulier.
C'est régulier. Bon, c'est des témoignages qui sont particulièrement frappants, et c'est pour ça que je les cite très très régulièrement parce que ils sont exemplaires, hélas.
Mais oui.
Ils sont exemplaires. Mais combien de fois on a des femmes qui nous appellent en disant je vais vous raconter mon histoire, puis vous allez me dire si c'est des violences. Et en fait, c'est tout une façon d'être avec le conjoint qui très souvent est un aidant et si on le lit au prisme si on décrypte les attitudes et les actions avec les stratégies de l'agresseur, ça rentre tout à fait dans ces stratégies d'agresseur.
Mmh.
Et c'est beaucoup plus facile de mettre sous emprise une femme qui est vulnérable du fait de son état de santé ou de son handicap qu'une femme dite valide.
Oui, oui. Vous pensez qu'il y a des gens qui vont chercher ce type de profil ?
Oui, tout à fait. Et il y a des perversions partout, hélas. Vous regarderez, si vous n'avez jamais eu l'occasion, de chercher des rencontres sur Internet entre personnes valides et femmes à qui il manque un membre. Et vous allez trouver des sites qui proposent des rencontres.
Oui, il y a du fétichisme. C'est bizarre, oui.
Exactement, exactement.
Oui.
Et puis, c'est tellement plus facile de se présenter, quand on est un homme violent, comme un chevalier blanc. Tellement plus facile.
Voilà, ouais. Donc c'est vraiment compliqué, là. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça ?
Éduquer, ça, c'est la première chose. Éduquer, accompagner, croire la parole. Parce qu'il y a un impensé des violences faites aux femmes handicapées. On a entendu une fois le récit d'une dame qui me dit « Je suis allée au commissariat pour porter plainte. » Et puis à l'accueil, on m'a dit « Mais madame, vous êtes handicapée. Ne me dites pas qu'en plus, vous êtes victime de violence. »
Oh là là, voilà. C'est incroyable.
Donc nous, on travaille, vous savez, on est militante et on travaille justement depuis quelques temps à la formation des policiers, à l'accueil des femmes handicapées en commissariat.
Les commissariats sont ouverts à votre sensibilisation ?
Oui, oui, oui. On commence depuis quelques mois, donc c'est au tout début, mais il y a effectivement des équipes qui sont très intéressées parce que elles ne connaissent pas du tout.
Oui.
Elles n'ont pas. Le problème du handicap, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, c'est que tout le monde sait intellectuellement que ça existe, mais personne, à moins de le vivre au quotidien, ne sait quels sont les freins à la participation à la vie sociale et citoyenne que génère le handicap.
Oui.
Et il y a un impensé des violences faites aux femmes handicapées.
Et alors, vous avez bon espoir, Isabelle Dumont de FDFA, vous avez bon espoir qu'un jour les choses s'améliorent ?
Ah ben on fait tout pour, en tout cas. On est sur le terrain, on fait ça à notre niveau. On essaye justement de mobiliser les bonnes volontés sur cette question des violences systémiques vécues par les femmes handicapées. Et justement, on réfléchit. On porte un plaidoyer, nous aussi. Et c'est pour ça qu'on a rejoint, par exemple, le collectif Ensemble contre le sexisme.
Voilà, et c'est pour ça que demain, la webconférence est accessible aux personnes.
Exactement.
Voilà, racontez-nous, expliquez-nous.
Exactement, ça a été la première chose que j'ai mise en avant, c'est et les femmes handicapées. Que faites-vous pour les femmes handicapées ? Donc il a fallu faire un petit peu d'explication de texte, de dire qu'en France, c'est 12 millions de personnes handicapées. C'est pas anecdotique. C'est pas totalement inutile d'envisager l'accessibilité. Et puis l'accessibilité pour les personnes handicapées profite aussi à certaines personnes qui ne sont pas reconnues comme étant en situation de handicap. Un exemple, une vidéo sous-titrée, elle a 12% de probabilité d'être vue en plus que si elle ne l'est pas.
Ah oui, bah oui, c'est bien.
C'est pas mal. Ah oui. Bah oui. Vous êtes sur votre smartphone, vous n'avez pas vos écouteurs, vous suivez la vidéo en lisant les sous-titres.
C'est vrai. C'est vrai, où on ne veut pas faire de bruit, on lit les sous-titres.
Exactement, exactement. Donc, c'est rentré tout de suite dans la pratique du collectif de dire que dans le budget, systématiquement, il y aura une ligne pour l'accessibilité avec la vélotypie.
Oui, et ça avance. On avance quand même. Vous êtes FDFA a été créé il y a un certain nombre d'années. Je
2003,
sais pas.
2003. On va avoir 20 ans l'année prochaine. Vous vous rendez compte ?
D'accord. Ah ben, vous viendrez fêter vos 20 ans ici
sur
Vivre
FM. On est en train de réfléchir au fiesta qu'on va organiser pour fêter en grande pompe cet anniversaire des 20 ans. Oui.
Très bien. Et vous voyez une évolution positive ?
Oui.
J'imagine.
Oui. À mon humble niveau, je constate qu'il y a une attention particulière qui est portée désormais aux personnes handicapées. Je ne dis pas que c'est la panacée, je ne dis pas que c'est alléluia, on a tout gagné. Non, c'est n'oublions pas les personnes handicapées, on va mettre la vélotypie, on va s'inquiéter de l'accessibilité du site, on demande notre expertise.
Oui.
En disant, il y a FDFA, on va leur poser la question.
Oui. Femmes pour le dire, femmes pour agir, pour les personnes, les femmes en situation de handicap. Merci Isabelle Dumont de nous avoir parlé de cette 5e journée nationale contre le sexisme qui démarre demain avec cette webconférence de 14h30 à 17h, accessible donc sur internet, il faut être sur internet, et puis avec de la vélotypie, donc c'est en sous-titres.
Exactement, merci à vous.
Un dernier mot, il reste une minute.
Un dernier mot, on espère organiser cette année notre colloque sur la maternité au prisme du handicap. Ça sera certainement sur juin, mais je reviendrai vous en parler avec grand plaisir.
Et on vous accueillera avec un grand plaisir. Merci Isabelle Dumont.
Merci à vous.
C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.